J'ai le privilège aujourd'hui de commencer une nouvelle série de prédications. Suite au départ en retraite de Paul Appéré, nous nous posions la question de savoir quel texte étudier lors de cette phase de transition. Et nous avons décidé de regarder à Jésus-Christ, à sa vie, à son enseignement, à sa mort et à sa résurrection d'entre les morts. Pour ce faire, tout au long des prochains mois, nous allons concentrer notre attention lors de nos cultes du matin comme du soir sur l'évangile de Marc. Avant de lire le texte que nous étudierons aujourd'hui, il me semble important de faire quelques mots d'introduction sur cet évangile de Marc. Comme son nom l'indique, l'évangile de Marc a été rédigé par Jean. Jean surnommé Marc, Jean-Marc. Jean est un prénom courant à l'époque, comme Jésus l'était, comme Judas ou Jacques également. Et pour être identifié, les personnes avec ces noms courants rajoutaient souvent quelque chose à leur nom pour spécifier. Ainsi, Jean-Marc est appelé Marc pour différencier les autres Jean. Et entre parenthèses, je ne serais pas surpris si Matthieu venait me voir à la fin du culte en me disant « Pour simplifier, nous allons suivre l'exemple des contemporains de Jésus et non plus t'appeler Paul, mais je ne sais pas, Paul, fils de Pascal ou frère de Pierre. » Pauvre Matthieu, qui doit faire l'équateur entre tous les Pauls. Revenons à Marc. Marc est un proche de l'apôtre Pierre. Ainsi, c'est chez Marc et sa mère Marie que Pierre se rend après que Dieu ait ouvert les portes de sa prison en Acte 12. Marc est également aux côtés de l'apôtre Pierre lorsqu'il rédige sa première épître. J'aime beaucoup la vie de Marc. Le fait que Marc ait rédigé un évangile devrait être encourageant pour nous. Et cela parce que Marc, c'est l'un des disciples qui, semble-t-il, a failli à sa tâche. Marc avait commencé un ministère aux côtés de l'apôtre Paul, mais très rapidement l'avait quitté, laissant Paul seul dans son ministère. Et de manière compréhensible, Paul, par la suite, ne souhaite plus travailler avec lui. Au contraire de Barnabas, qui décide de laisser l'apôtre Paul pour pouvoir prendre Marc à ses côtés. Et Barnabas va permettre à Marc de devenir Marc l'évangéliste. D'une certaine manière, le parcours de Marc n'est pas sans lien avec celui de l'apôtre Pierre dont il est proche. Un Pierre qui s'était dégonflé, tel un soufflé, lors de l'arrestation de Jésus. Ils ont cette expérience en commun. Je me réjouis de savoir que Dieu utilise des personnes bien imparfaites pour faire de grandes choses. J'espère que c'est pour nous un encouragement de savoir cela. Il n'est jamais trop tard. Vous vous sentez faible, découragé ou lâche quant à votre foi? Il n'est pas trop tard. Dieu peut se servir de vous. Dieu va se servir de vous. Il s'est servi de Pierre qui avait abandonné le Christ. Il s'est servi de Marc, celui qui avait abandonné le ministère. Et Dieu l'a amené à un ministère plus grand encore. Dieu a confié à Marc le soin de raconter la vie de Jésus-Christ, comme il le fera également avec Matthieu, Luc et Jean. Au lieu de développer cette introduction de manière plus poussée, nous regarderons plutôt l'introduction que Marc lui-même a rédigée dans son évangile. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au premier chapitre. Nous lirons les versets 1 à 13, c'est à la page 1115, et j'invite Marie à venir pour la lecture. 1115 des Bibles bleues que vous avez devant vous.
Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Merci Marie. Ces versets forment l'introduction que Marc a voulu nous donner. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lorsque Matthieu, Marc et Luc rédigent leur évangile, c'est un style littéraire nouveau. Et nous le verrons tout au long de notre étude, ce que Marc a rédigé, ce ne sont pas seulement des mémoires sur Jésus-Christ, un grand homme, ni même la biographie du plus grand homme qui ait jamais existé. Mais ce qu'il a écrit a comme but de présenter Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu sur terre. Le but de Marc dans son évangile, par son évangile, c'est d'interpeller, c'est de faire réfléchir le lecteur. Qui ce Jésus peut-il donc être ? Qui est Jésus ? Voilà la question fondamentale à laquelle le lecteur de cet évangile est invité à se poser dans ces quelques versets, comme tout au long de l'évangile. Qui donc est Jésus-Christ ? Et pourquoi est-il venu ? Je prie que nous nous posions cette question tout au long de notre série de prédications. Qui donc est ce Jésus-Christ ? Et je prie que Dieu nous donne de comprendre la réponse que Marc donne à cette question. Qui est Jésus ? Marc n'attend pas longtemps avant de nous donner sa réponse, n'est-ce pas ? Dès le premier verset, Marc y répond. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La bonne nouvelle de Jésus. Jésus, voilà son nom. Son seul nom résume sa personne parfaitement. Jésus, en hébreu, ce prénom veut dire « Dieu sauve »,« Dieu délivre ». Jésus. Ce n'est pas par hasard que Dieu, au travers de l'ange, dit à Marie de l'appeler ainsi. Dieu souhaite que l'on sache qui est Jésus. Dieu sauve. Son seul nom résume parfaitement sa personne et son œuvre encore à venir. Jésus, Dieu sauve. Mais ce n'est pas tout. Jésus, Jésus-Christ. Il est le Christ. Ce n'est pas là un surnom. Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom composé comme Jean-Marc. Jésus est le Christ. C'est là un titre qui lui est donné. Le Christ, le Messie. Christ et Messie, c'est le même mot. Un Christ vient de la forme grecque, Messie du mot hébreu. Le mot Messie désigne une personne ointe, une personne que Dieu a bénie, une personne que Dieu lui-même a choisie. Jésus. Celui que Dieu a choisi, Jésus-Christ. Dieu souhaite que l'on sache qui est Jésus. Il est celui que Dieu lui-même a choisi pour sauver. Pour sauver. Celui que Dieu a choisi pour sauver. Plus encore, il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le dit Marc. Ce Jésus est le Fils de Dieu, il est Seigneur, il est pleinement divin, il est éternel, il est immuable, il est parfait, parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas qu'un homme parmi d'autres. Jésus n'est pas non plus un prophète parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu venu sur terre. Marc n'y va pas par quatre chemins. Et nous le verrons tout au long de l'évangile, Marc est très direct. Dès le tout premier verset de son évangile, Marc brosse le portrait de Jésus. Il est le Fils de Dieu, choisis par lui pour sauver. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le mot évangile veut lui-même dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est réellement une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament est résumé par cette phrase. Toute la Bible est résumée par elle. Depuis Genèse 3, verset 7 et l'apparition du péché, la création tout entière était dans l'attente de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est lui que nous attendions. C'est lui seul qui peut nous amener dans la présence de Dieu. Lui seul qui peut pardonner. Le seul qui peut sauver. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La question se pose à nous aujourd'hui. Jésus est-il pour nous une bonne nouvelle, notre bonne nouvelle? Ou sommes-nous comme tièdes face à cette bonne nouvelle? Lorsque nous avons de bonnes nouvelles, que ce soit notre conversion, mariage, naissance de nos enfants, nous souhaitons le partager, évidemment. On souhaite partager au plus grand nombre. Souhaitons-nous partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Quelle belle nouvelle! Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour sauver. Voilà la réponse de Marc. Après avoir donné cette réponse, Marc va regarder aux différents témoignages concernant le Christ. Et tout d'abord, le témoignage des prophètes de l'Ancien Testament. Relisons les versets 1 à 3. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. L'Ancien Testament annonce Jésus-Christ. Christ est présenté tout au long de la Bible, pas seulement dans le Nouveau Testament. Jésus est venu conformément à ce qu'annonçaient les prophètes. Marc cite deux textes de l'Ancien Testament pour démontrer cela. Ésaïe chapitre 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1. Malachie, c'est le tout dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre avant le silence de Dieu. Le dernier livre avant la venue de Jésus-Christ. Qu'annonçait Dieu dans ce livre? Je vous invite à y regarder. Directement, Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3, puis les versets 23 et 24. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Puis dans les versets 23 et 24, « Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel. » Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Je vous envoie un messager. Ce messager va préparer le chemin du Seigneur. Le livre de Malachie a été rédigé. Tout a été dit, tout a été annoncé. Il ne reste plus qu'à l'attendre, celui que Dieu a choisi. 400 longues années que Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Comme il l'avait promis, conformément à ce qu'annonçait l'Ancien Testament, Dieu a envoyé un nouvel Élie en la personne de Jean-Baptiste pour préparer le chemin pour Jésus-Christ. Relisons les versets 4 à 8. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin. Et voici résumé son message. Il vient bientôt, celui que Dieu a promis. Son arrivée est imminente. Il vient bientôt, celui qui va nous sauver. Il vient bientôt, celui qui pourra nous baptiser du Saint-Esprit. Le Messie arrive. Comprenons notre péché. Comprenons notre besoin de pardon. Repentons-nous de nos fautes. Signifions notre besoin de purification en passant par le baptême. Par ce baptême d'eau, Jean invitait ses contemporains à demander pardon à Dieu pour leurs fautes. Mais Jean-Baptiste savait que ce baptême qu'il administrait n'était que le symbole de quelque chose encore à venir. Son baptême ne pouvait sauver. Son baptême n'avait comme but que de préparer le cœur de ses contemporains. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Il arrive, celui qui va enfin nous purifier de l'intérieur. Il arrive, celui qui va pouvoir nous délivrer de nos péchés. Jean-Baptiste rendait témoignage à Jésus-Christ avant même de le connaître. Regardez à son témoignage. Il arrive, celui que Dieu a promis. Et si le témoignage de Jean-Baptiste n'était pas suffisant, Marc présente un deuxième témoignage, le témoignage du Père. Relisons les versets 9 à 11. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Tu as toute mon approbation. Ainsi Jésus passa par le baptême de Jean. Et je m'excuse de passer bien trop rapidement sur ces versets. Il y aurait tant à dire. Mais Marc lui-même ne développe pas ce point autant que Matthieu et Luc. Comprenons que si Marc cite le baptême de Jésus, et c'est pour la même raison qu'il a mentionné Jean-Baptiste, c'est en vue du témoignage qui a été rendu au sujet du Christ. Jésus passe par le baptême et là, Dieu le Père lui rend directement témoignage. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Dieu a rendu publiquement témoignage à son Fils. Il n'y a pas de témoignage plus grand que celui-là. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Que dire de plus ? Dieu lui-même a rendu témoignage à son Fils. Dieu lui-même a reconnu Jésus comme étant le Christ, comme étant celui qui allait sauver son peuple. Il n'y a de témoignage plus grand que le témoignage de Dieu. Il n'y en a pas de plus grand. Mais dans ces versets, il y a encore un témoignage. Et c'est aussi intéressant. Le témoignage de l'adversaire de Satan. Verset 12. « Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Pendant 40 jours et 40 nuits, Satan, ce qui veut dire adversaire, et j'aime bien l'appeler l'adversaire, tenta Jésus. Lors de la préparation pour cette prédication, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi Marc mentionnait la tentation de Jésus au désert. Les prophètes de l'Ancien Testament, je comprenais, Jean-Baptiste également, le témoignage du Père d'eux-mêmes. Mais la tentation de Jésus au désert, je ne comprenais pas vraiment. Je me disais, c'est peut-être pour montrer que Jésus est Dieu, puisqu'il n'a pas cédé à la tentation. Et c'est vrai, Tout au long de sa vie, il va résister à l'adversaire. Jusqu'à sa mort, il va résister à l'adversaire, à Satan. Mais je pense qu'il y a plus. Je crois qu'au travers de cet épisode, nous est comme présenté le témoignage de l'adversaire, Satan, à l'égard du Christ. Pourquoi Satan tenta-t-il Jésus? Posons-nous la question, pourquoi le fait-il? Parce que Satan savait pertinemment bien qui est Jésus-Christ. Dieu, en Christ, a mis son plan en œuvre. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour nous arracher à la main de Satan. Satan a pris peur. Dieu a enfin révélé son plan. Son plan, c'est Jésus. Celui qui va sauver, c'est Jésus. Parce que Jésus est le Christ. Parce qu'il est celui que Dieu a envoyé, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour sauver l'être humain, Satan a cherché à le détourner de sa mission. Si Jésus n'était qu'un homme, Satan n'aurait pas pris peur. Parce que juste là, pas un seul homme n'arriva à lui résister. Mais Jésus est le Christ, le Fils de Dieu venu pour sauver. L'attitude de l'adversaire envers Christ rend témoignage à Jésus. Satan a vu en Jésus son pire ennemi, celui qui va le détruire. Et il a tout fait pour chercher à détourner Jésus de la mission qui était sienne. Après avoir jeûné pendant ces 40 jours, le corps affaibli, Jésus ne céda pas à la tentation. Il nous est rapporté ainsi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. » En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus ne céda pas à la tentation. Le témoignage de Marc est clair. Celui des prophètes, celui de Jean-Baptiste, du Père et même de l'adversaire sont concordants. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui vient pour sauver du péché. Je l'ai dit tout à l'heure, Marc est très direct dans son évangile. Permettez-moi de l'être avec vous également. Qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus? Voilà la question fondamentale à laquelle Marc nous invite à réfléchir dès ce jour. Quelle est notre réponse à cette question? Jésus est-il pour vous un simple rabbin juif ou un philosophe? Parce que pour Marc, il est bien plus que cela. Jésus est-il pour vous un homme sage, un modèle, une inspiration? Parce que là encore, pour Marc, pour Jean-Baptiste, pour le Père, pour les prophètes et même pour Satan, Jésus est bien plus que cela. Il est le Messie, le Fils de Dieu incarné dans la chair, venu pour nous sauver. Est-il cela pour vous? Je le souhaite de tout cœur pour chacun de nous. Qui est Jésus? Le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver. Dans cette affirmation de Marc, nous sommes invités à y réfléchir et à nous situer par rapport à elle. Peut-être aujourd'hui n'êtes-vous pas encore convaincu par cette affirmation. Mais si tel est le cas, je me réjouis de savoir que nous allons regarder ensemble à la vie de Jésus au cours des prochaines semaines. Regardez à Jésus, regardez à sa vie, à son enseignement, à sa mort, et alors vous comprendrez qui il est. Amen.